Sur moment 2,9. À l'est de la République démocratique du Congo, les animaux sont menacés par des braconniers. Les éléphants du parc de Virunga et les gorilles de la réserve de Kiviri sont les espèces les plus ciblées. Par ailleurs, certains parcs comme celui de Maïko sont devenus des lieux d'exploitation de l'or et du coltan. Comment mettre fin à ce braconnage qui prend de plus en plus de l'ampleur? Étienne Mouindo s'est penché sur le dossier. Étienne, bonjour.
Bonjour Nathalie.
La situation semble particulièrement difficile à l'est du Congo et pourtant, on peut dire que la guerre est finie et que la faune, la flore, les différents parcs devraient profiter de cette accalmie. À quoi est-ce cela est dû?
Oui Nathalie, comme vous l'avez dit, là, la situation est difficile. Et selon des statistiques fiables, les éléphants du parc national de Virunga, qui étaient estimés en 1959 à plus de 3550, et bien en 1996, on y a dénombré seulement 350 éléphants. Combien reste-t-il aujourd'hui? Eh bien, c'est la question que l'on peut se poser et puis on peut faire même des projections là-dessus. Tout à souligner que le 14 avril dernier, dans le parc national de Virunga, 14 éléphants ont été abattus, respectivement 4 par l'FDLR, 8 par les Maïmaï, et certains éléments incontrôlés des SRTC à complicité avec la population. Et c'était donc un territoire de retour d'après l'ONG Wildlife Group basé à Nairobi qui a été cité par l'agence France Presse. Et ça, c'est seulement un cas qui ne concerne que le parc national de Virunga Nathalie. Les autres parcs, tels que Maïko, les réserves de gorilles de Taïna en territoire de Lubero et Kiavirimo en territoire de Beni, subissent le même affre de la destruction. Il semble que le mal a commencé en 1996 avec les différentes guerres que nous avons connues. Et d'autres personnes parlent même des années 90 comme étant le commencement de la destruction systématique de nos parcs à cause surtout du laisser aller qui a caractérisé l'ancien régime. Je parle ici du régime de Mobutu.
Mais alors, qui sont pointés du doigt dans cette destruction du parc, Pierre?
Oui, Nathalie, on peut citer pêle-mêle le groupe d'armée, ici donc les Maïmaï, les militaires incontrôlés des FARDC, les groupes d'armée étrangers, tels que les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les ralliements pour l'unité, la démocratie, le rassemblement pour le peuple rwandais, ça c'est du côté rwandais, mais aussi du côté de la rébellion ougandaise, on peut citer les EDF Nalu, qui sont basés dans les territoires de Beni. Et à côté de ces groupes armés, on peut citer aussi des populations riveraines du parc national de Virunga, des populations riveraines de la réserve des gorilles de Kiavirimu, réserve des gorilles de Taïna, et même la population riveraine du parc national de Maïko.
Mmh. Et est-ce que les autres réserves animalières échappent à cette destruction méchante?
Alors, aucun parc dans le Nord Kivu, aucune réserve forestière ou animalière n'est à l'abri de la déforestation ou encore moins du braconnage, Nathalie. Les autorités du parc national de la Maïko se plaignent régulièrement de la destruction anarchique du parc, et cela par la population urbaine qui n'hésite pas à occuper le parc avec des cultures vivrières, ainsi que la coupe de bois des chauves. Et d'autres personnes, surtout les groupes armés, nationaux et étrangers, s'adonnent au braconnage des singes, des gorilles, des buffles et des éléphants. C'est surtout pour la consommation de la viande, notamment, et l'obtention de l'ivoire. Il ne faut pas oublier, Nathalie, que le commerce de défense des éléphants reste florissant malgré son interdiction sur le plan international.
Et que peuvent faire les autorités de l'Institut congolais de conservation de la nature pour enrayer ce mal?
Je crois de mon côté que la réponse doit être collective et donc elle devra impliquer à la fois l'État qui doit restaurer la paix, la sécurité et le développement dans les Kivu comme cela a été décidé lors de la dernière conférence de Goma. Parce qu'aussi la destruction est intimement liée à l'insécurité qui est récurrente dans la région, mais aussi au manque de paix et peut-être aussi au chômage des grands nombres de jeunes qui s'adonnent au braconnage et à la destruction de l'habitat des éléphants et autres gorilles, par la déforestation et la transformation du parc en carrière minière. Et l'Institut congolais de la conservation de la nature, de son côté, doit former un grand nombre de gardes-parcs et les équiper aussi les pays. La population de son côté doit être sensibilisée à la conservation et comprendre surtout que la conservation profite à la fois à la communauté riveraine, nationale et mondiale par la conservation de la biodiversité, Nathalie.
Tout à fait, Étienne, vous avez tout à fait raison d'ailleurs. Nous allons recevoir tout à l'heure Norbert Moussenti, il est conservateur du parc national de Virunga dans sa partie nord. Il est donc notre invité ce matin. Merci, Étienne, pour toutes ces précisions. On vous retrouve le lundi prochain pour cela.
Je vous appelle maintenant.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Pour écouter aujourd'hui la musique hier, associer nos oreilles de l'histoire de la musique, revivre des grands moments de la chanson congolaise, retrouver nos héros et chanter avec eux, ouvrons le bal avec la musique des années 50, 60, 70 et 80. Tous les dimanches, de 19h à minuit dans Kinshasa et de 20h à 1h heure de l'Est. Tous les lundis et mardis de 21h à minuit dans le Kinshasa et de 22h à 1h heure de l'Est. Au tapis rétro sur Radio Kapi avec DJ Daddy, changer de rythme.
Voilà, Norbert Moussenzi, conservateur du parc national de Virunga dans sa partie nord, est notre invité. Bonjour, monsieur Norbert Moussenzi.
Bonjour, madame.
Oui, je voulais, ma première question, hein, c'est de savoir, vous en tant que conservateur de ce parc, bien que ce soit uniquement dans sa partie nord, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de ce parc de Virunga, uniquement?
Bon, merci pour la question. D'abord, je vais édifier nos auditeurs que le parc national de Virunga, en général, couvre une superficie de près de 809 000 hectares. Il a dans son sein donc la faune diversifiée, notamment le gorille qui est l'animal emblématique dans le système hygiénique. Il y a aussi les éléphants dans le système centre et enfin au grand nord l'okapi qui a été découvert en 1906. En dehors de cela, il y a aussi plusieurs biotopes, notamment les volcans en activité et les volcans endormis, les écosystèmes lacustres, ainsi la forêt en profil de basse altitude de la forêt alpine de Morenzori. Donc, clairement, c'est ça.
Oui, là, vous avez un peu présenté le parc. Mais dans l'état actuel des choses, dans quel état se trouve ce parc?
En tout cas, dans l'état actuellement, la situation n'est pas du tout réalisante. Parce que tout récemment, on a déploré l'abattage de plus de 15 éléphants dans le secteur centre. Et cela, c'est l'effet conjugué de l'insécurité des bandes armées qui se trouveraient, qui trouvent donc la base arrière dans le parc.
Etienne Moïse a fait état de 3350 éléphants que l'on comptait il y a à peu près 37 ans, c'était en 1959. Et aujourd'hui, 37 ans plus tard, il n'en reste plus que 350 si on compte. Enfin, en 1996, il y en avait 350. Et aujourd'hui, il y en a combien si vous dites qu'on en a tué 15, comme vous le dites là? Combien avez-vous dénombré d'éléphants dans le parc aujourd'hui?
Bon, à 2005, on a fait un recensement aérien de tous les grands mammifères du parc, notamment à partir de Savanicole. Vous vous souviendrez que, par exemple, il y a près de 20 ans, il y avait plus ou moins 25 000 hippos. Aujourd'hui, il n'en reste pas plus de 800. Aussi, les éléphants, vous en avez de nombreux, comme disait Étienne Mindo, dans son temps, il y a plus de 20 ans, donc on en avait dans les 6 000. Et tout récemment, 2500 dans les ressourcements aériens, on ne pouvait pas compter au-delà de 350 dans la partie de Savanicole.
Mais alors, on a parlé tout à l'heure de la population, de l'armée, mais vous-même, en tant que conservateur, n'avez-vous pas les moyens pour sécuriser ce parc, pour empêcher qu'il soit braconné de la manière dont il est fait aujourd'hui?
Je vous assure, la partie n'est pas si facile, elle est vraiment complexe. Comme je disais, le parc a constitué presque une arrière-base de toutes les forces conjuguées, les forces négatives, les deux. Que ce soit le Zintiramwe, que ce soit le Nalu, que ce soit même pour le moment, par exemple, le secteur Mikeno, presque 150 postes. Alors.
Excusez-moi, vous dites.
Mettez à tout cela, donc, les postes négatives qui sont internes, hein, donc, les rebelles, qui se disent civiques, là, donc, les maïmaïs. Tout ce qu'il faut conjuguer avec, donc, la guerre que nous avons conduite. Hein, toutes ces armes qui se vendent comme des cacahuètes ici, alors je ne vois pas comment sinon on peut s'en sortir avec moins de 600 gardes pour 800 000 hectares. C'est pas possible. Que ça vienne qu'on soit équipé, mais il y a aussi quelque part, il faut une volonté politique également. Il faut absolument que le gouvernement puisse nous donner l'appui.
Mais est-ce que vous avez fait un plaidoyer dans ce sens?
Pardon?
Est-ce que vous en avez parlé à l'autorité provinciale, par exemple, pour qu'elle puisse prendre des mesures à ce sujet? Parce que quand même, bon, des rebelles, comme vous le dites, entre guillemets, ça c'est aussi à vérifier, qui vivent dans le parc. Évidemment, il y a aussi tous les autres groupes armés qui squattent le parc. Mais est-ce que l'autorité provinciale ne s'implique pas pour pouvoir mettre dehors tous ces personnes?
Bon, l'autorité provinciale est déjà édifiée par rapport à cette situation, mais le problème, il faut voir, est-ce qu'il en a le moyen également, quelle que soit la volonté politique qu'il a.
Mais si vous
donc,
dites
c'est vraiment
vous...
tellement complexe.
Mais si vous, à chaque fois vous dites que vous n'avez pas les moyens, à l'allure où vont les choses, finalement, le parc va se retrouver complètement vide.
Bon, c'est ça le danger que nous sommes en train de
faire. Alors, quelle sera la votre utilité? Vous serez conservateur d'un parc vide?
Oh, à la lueur où les choses, bon, heureusement quand même quelque part, nous avons ce qu'on appelle la politique transfrontalière de gestion de parcs qui sont continus, notamment le parc de Queen Elizabeth, le parc de Bundy, la Semliki, donc nos voisins. Et à chaque fois qu'il y a de la sécurité ici, il y a les animaux qui fuient de ce côté, donc côté ougandais. Et c'est ici au secteur, non, nous avons même déjà remarqué un accroissement des populations des animaux, notamment les coqs de bichon, les biches, et même les éléphants, parce que tout récemment, on a même observé une quartaine d'éléphants qui traversaient la Lubiria en provenance de
l'Ouganda. Oui, mais ils vont en Ouganda et c'est l'Ouganda qui jouira. Ce n'est pas la RDC. Le parc de Virunga est parmi les parcs les plus connus dans le monde.
C'est la transhumance.
Oui.
Parce que même à 60 ans, quand le Ouganda était en difficulté, nous, le parc de Virunga, comme il n'y a pas de limite naturelle, hein, donc les animaux venaient du Congo vers l'Ouganda pour récupérer le sud d'Elisabeth.
Alors Norbert Moussenzi, vous êtes conservateur du parc national de Virunga dans sa partie nord. Tout récemment là, on a assisté à une réunion tripartite entre trois autorités provinciales, à savoir celle de Bandundu, et également de l'Équateur et pourquoi pas celle de Kasaï. Alors c'était une réunion autour de cette question sur le braconnage qui se porte bien dans la forêt équatoriale. Alors, on peut dire au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore des retombées dans cette partie du pays, des retombées de cette réunion?
Ah, je ne saurais pas vous le dire parce que je n'ai pas personnellement assisté à cette réunion. Je crois que c'est mieux de vous référer à ceux-là qui étaient concernés par cette réunion. Je n'ai pas vraiment le feedback de cette réunion-là.
Voilà, alors parlons de la partie nord, parce que là vous venez de parler des éléphants qui sont abattus en deux semaines dans la partie sud, mais la partie nord, où il y a des okapis, quelle est la situation actuelle?
En tout cas, j'ai quand même un grand plaisir de vous informer qu'on commence même à voir les okapis dans le secteur Bataringa, dans ce qu'on appelle la moyenne Semuriki. Dieu merci que cette forêt est encore intouchable, mais nous avons l'espoir que si on continue à le conserver, nous pourrons avoir des demandes de protection.
Oui, ben alors, mis à part la présence des éléments non autrement identifiés, ou soit des éléments armés, est-ce qu'on observe également la même situation comme celle d'autres parcs, notamment celui de Maïko, où, disons, la population a transformé certains parcs en lieu d'exploitation de l'or et du coltan?
Oui, ce sont des cas qui sont connus, que ce soit au Kaouzi-Biega comme à la Maïko. Ce sont tous ces éléments non nettement identifiés qui s'adonnent à l'exploitation des ressources minérales. Ça, c'est connu.
La population n'est pas aussi impliquée?
Oui, mais la population trouve son compte également quand ils sont utilisés par ces gens. Ils touchent des dividendes, sans doute.
Alors, avez-vous déjà eu à réfléchir sur les pistes de solutions pour arriver, tant soit peu, à freiner l'allure que prend ces braconnages dans cette partie du pays?
Nous, au niveau national, il y a
d'abord au niveau local, au niveau de
l'institut, à l'ICCN, non? Il y a peut-être des stratégies qui restent maintenant à mettre en œuvre. Il y en a, si jamais par exemple la paix revenait, il y a moyen quand même qu'on puisse exploiter ces visites stratégiques de manière à ce que la population phonique puisse péter nos parcs. Que la population puisse trouver son compte actuellement.
Est-ce que
vous avez la population communautaire qui est déjà qui a été donc validée par le Coco Congo et que pour le moment il reste que cette stratégie puisse se avaliser également par le Parlement.
Alors est-ce que vous pouvez nous faire une idée précise sur ces 18 stratégies?
Il y a pas mal. Bon, je voudrais parler de la consolation communautaire. C'est une des stratégies. Il y a le problème de formation, il y a le problème d'équipement, il y a le problème dans la stratégie de renouvellement matériel, tout ça.
Alors prenons la stratégie information. Comment allez-vous procéder concrètement? Est-ce que vous allez faire du porte-à-porte, c'est-à-dire sensibiliser la population sur l'intérêt du parc ou de bien conserver le parc et aussi sensibiliser ceux-là que vous appelez les éléments armés qui occupent illégalement les parcs nationaux?
Bon, la politique de porte-à-porte peut payer aussi son prix. Mais de toute façon, par rapport à cette politique de la conservation communautaire, il y a un service qui s'adonne à réfléchir sur la stratégie en question. Notamment, il y a la sensibilisation au niveau des médias. Il y a aussi de voyages, comment on appelle ça, des voyages d'études, ou bien des conférences au niveau des écoles. Il y a la technique, par exemple, d'approche entre les éco-gardes. Nous sommes en train de former, par exemple, des gardes pour qu'ils n'aient pas ce qu'on appelle la politique de la gâchette facile, mais qui sont aussi en même temps des formateurs.
Oui, ben alors concrètement, qu'est-ce qui est déjà fait en attendant que ces 18 stratégies soient adoptées au niveau du Parlement? Mais sur le plan local, vous avez déjà eu à amorcer quand même quelques démarches. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est déjà réalisé par rapport à ces 18 stratégies autour de ce parc national des Virunga?
Bon, nous avons par exemple la branche de la sensibilisation qui est animée par concrètement entre l'ICFN et le VVF, donc le Fonds mondial de la faune. Notamment, il y a la publication de plusieurs revues, notamment la revue Katché, il y a le reboisement. Aussi, il y a par exemple des émissions qui passent à la radio. Donc ça, c'est déjà quelques pistes de que nous sommes en train de faire. Il y a aussi des micro-réalisations à faveur des populations. Donc, c'est une façon d'approcher la population pour les besoins de la cause.
Alors, vous vous êtes quand même donné, par rapport à vos objectifs, vous vous êtes donné un temps. Est-ce qu'il y a un échéancier, si on peut quand même connaître, avant que vous puissiez atteindre quand même finalement vos objectifs?
Oui, les échéances sont déjà élaborées, mais le tout est lié à la paix. Il faut absolument qu'il puisse avoir la paix à notre niveau. C'est que tout le parc soit vraiment dégagé de toutes les forces négatives. C'est ça le problème. Donc il y a un plan triennal, il y a un plan décennal qui a été mis sur pied. Bon, on ne peut pas le mettre sur pied parce qu'il y a donc ces facteurs de sécurité qui viennent.
Donc on peut dire aujourd'hui, on ne peut pas craindre la disparition des espèces telles que au Capi. Vous avez dit qu'il y a quand même des nouvelles espèces que vous avez pu découvrir. Hein.
Oui, du coup, au Capi, il n'y a pas beaucoup de craintes, mais c'est surtout les éléphants et les hippos.
C'est du moins du côté des éléphants qui a des.
Côté des éléphants, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de craintes.
On a parlé tout à l'heure du commerce des défenses d'éléphants qui est interdit pourtant, mais qui est plutôt florissant de ce côté-là du pays. Est-ce que vous avez réussi quand même à essayer de déceler les réseaux bien affiliés qui s'y adonnent?
Parce que c'est une malheureusement, à mon niveau, non. Je n'ai pas pu terminer les filières, mais néanmoins, ce que nous sommes sûrs, c'est sur les revenus, c'est une opération qui rémunère les forces négatives qui sont dans le parc. Alors, aussi, nous pouvons aussi voir le prix du jet qui a augmenté au regard de la levée. Le commerce de l'ivoire par rapport à nos pays de Sud, notamment le Botswana et le Swaziland. Donc, c'est là ils peuvent même le Zimbabwe. Donc, ils sont les aussi d'exporter leur trop plein. Parce que vous savez que, par exemple, le Botswana, ils ont beaucoup plus de stocks de pain de poire dans leur stock stratégique. Donc, ils ne peuvent pas écouler à cause de la situation qui avait interdit le commerce des ivoires. Maintenant, comme le commerce a été levé, alors c'est comme ça que le prix a augmenté, même il y a une forte demande au niveau des pays asiatiques.
Voilà, Norbert Moussinzi, je rappelle que vous êtes conservateur du parc national de Virunga dans sa partie nord. Merci d'avoir été de nôtre. Au revoir et à la prochaine.
Merci, au revoir, Norbert.